début du festival qui a commencé, ce qui explique notamment que nous ayons parmi nous ce matin Pierre-Philippe Devaux, qui est comédien, qui est déjà venu parmi nous et qui présente un spectacle aussi encore cette année. Il nous en parlera tout à l'heure, mais on va profiter de sa présence au milieu de nous pour lui demander de lire pour nous le texte qui fera l'objet de la prédication ce matin. Alors, vous vous souvenez que dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, la lecture était très courte puisqu'il n'y avait qu'un verset, le premier verset de la Bible. Eh bien, nous allons relire ce verset, mais aussi tous ceux qui suivent. Et la lecture sera un peu plus longue ce matin, mais je vous invite à vraiment entrer dans ce magnifique texte qui est le portique d'entrée de la Bible, qui est ce récit de la création que nous trouvons au premier chapitre de la Genèse, et nous irons jusqu'au verset 3 du chapitre 2.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit la voûte, il sépara les eaux qui sont au-dessus de la voûte et les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Il en fut ainsi. Dieu appela la voûte ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul lieu et que la terre ferme apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leurs espèces et qui ont en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon ses espèces et des arbres qui portent du fruit et qui ont en eux leurs semences selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les rencontres festives, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans la voûte céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour et le petit luminaire pour dominer la nuit, ainsi que les étoiles. Dieu les plaça dans la voûte céleste pour éclairer la terre, pour dominer le jour et la nuit, et pour séparer la lumière et les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent de petites bêtes, d'êtres vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre, face à la voûte céleste. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent dans les eaux se mirent à grouiller selon leurs espèces, ainsi que tout oiseau selon ses espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit « Que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon ses espèces. » Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leurs espèces, le bétail selon son espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. » Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. » Dieu dit, « Je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. » À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour, et en fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant.
Quelle entrée majestueuse dans la révélation biblique. Ce n'est pas vous, mais moi, je ne me lasse pas de la beauté de ce texte évoquant l'œuvre créatrice de Dieu. À vrai dire, quand on considère ce texte, qu'on y réfléchit quelque peu, Il faut bien avouer que ce texte ne nous dit pas vraiment comment l'univers a été créé, même s'il affirme clairement que le monde n'existe pas par hasard, mais qu'il est bel et bien le fruit de l'œuvre d'un Dieu créateur, que Dieu, notre Dieu, est à l'origine de toute chose dans cet univers. Parce qu'en fait, plutôt que de nous révéler le processus de création mise en œuvre par Dieu, ce texte nous révèle avant tout le Créateur. Et je vous invite à considérer ce texte dans cette perspective. Et je vous propose trois pistes, il y en aurait sans doute beaucoup d'autres, pour trois caractéristiques du Dieu Créateur tel qu'il nous est révélé dans ce récit, dans ce texte d'ouverture de la Bible. Dans un premier temps, Dieu apparaît comme un Dieu qui met de l'harmonie dans le chaos. Parce qu'au début, au commencement, c'est le chaos. C'est le tohu-bohu. Vous savez, tohu-bohu, c'est la transcription en français du terme hébraïque utilisé ici dans le texte. Quand on dit c'est un vrai tohu-bohu, c'est-à-dire que c'est le bazar, hein, c'est le souk, c'est le chaos. Eh bien, c'est comme ça que nous est décrit au début de ce texte la création. La terre était un chaos. Et l'œuvre de création de Dieu, tout au long de ce texte, de ce premier chapitre, est de mettre de l'ordre dans ce chaos, d'organiser, de conduire jusqu'à l'harmonie. Il sépare, il nomme, il rassemble, il amasse. Ce chaos initial prend petit à petit forme pour devenir une création belle, très belle et harmonieuse. Pour souligner cet ordre, cette harmonie créée par Dieu, le récit est structuré de façon parfaitement parallèle. Il y a une symétrie de 2 fois 3 jours. Dans les 3 premiers jours, Dieu crée les cadres de vie. Et dans les 3 jours suivants, il fait habiter ces cadres de vie. Premier jour, la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit. Deuxième jour, le ciel et la mer. Troisième jour, la terre ferme. Et alors au 4e jour, il crée le soleil et la lune pour habiter le jour et la nuit, créés au premier jour. Au 5e jour, il crée les oiseaux et les poissons qui viennent habiter le ciel et la mer, créés au 2e jour. Et le 6e jour, il crée la végétation et les animaux, y compris les animaux terrestres, conduisant jusqu'à la création de l'homme, qui viennent habiter le cadre de vie créé au 3e jour. Une parfaite symétrie pour un Dieu qui met de l'ordre dans le chaos, qui crée un monde harmonieux. Et puis il y a un refrain, vous avez entendu dans la lecture tout à l'heure. Ce refrain qui arrive à la fin de chacun des 6 jours de création. Dieu vit ce qu'il avait fait et c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Un refrain qui se modifie un tout petit peu à la fin du 6e jour, où il nous est dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et c'était très bon. L'harmonie est arrivée au terme. Il n'y a plus de chaos. Au commencement, la terre était un chaos et à la fin, Dieu voit que ce qu'il a fait est très bon. L'ordre est retrouvé, l'harmonie règne dans cette création, œuvre de Dieu. On peut donc dire que dès la première page de la Bible, le Dieu créateur apparaît comme celui qui peut changer le chaos en harmonie. C'est ce qu'il a fait dans la façon dont nous est décrit son œuvre créatrice, mais il est bon, réconfortant pour nous aujourd'hui d'entendre cela, que notre Dieu créateur est celui qui peut mettre l'harmonie là où règne le chaos. Parce que depuis que le mal est apparu dans le monde, depuis que le péché a fait son entrée dans l'humanité, le chaos est là à nouveau. Et il suffit de regarder autour de nous pour constater que ce chaos a retrouvé une place de choix dans la création. Eh bien, notre Dieu, ce Dieu créateur, est celui qui peut mettre de l'harmonie là où règne le chaos. Il peut le faire dans le monde, et il le fera au jour où il établira son règne dans une nouvelle création. Il peut le faire dans notre vie, qui parfois sont un peu chaotiques, dans notre vie qui parfois ne reflète pas forcément l'harmonie. Eh bien, ce Dieu-là, notre Dieu, peut mettre de l'harmonie dans notre vie, parfois chaotique. Un Dieu qui met de l'harmonie dans le chaos, mais qui ne le fait pas forcément en un clin d'œil, mais un Dieu qui prend son temps. C'est la deuxième caractéristique du Dieu créateur que nous pouvons relever dans ce récit. Alors même si les jours, ici les 6 ou 7 jours de création, sont très certainement à prendre de façon symbolique, hein, on parle de jours, mais la lune et le soleil sont créés le 4e jour. Donc on est bien dans le symbole ici. Même si le mot jour est à comprendre de façon symbolique, la façon dont nous est décrit l'acte créateur de Dieu s'étend dans une durée. On ne nous présente pas un Dieu qui a créé le monde en un clin d'œil. Ici, on nous dit qu'il a pris 6 jours. Il a pris du temps. Même si on peut dire 6 jours, quand même, c'est court, hein. 6 jours pour créer le monde. Mais n'empêche qu'il ne l'a pas fait en un clin d'œil. Dieu est tout puissant. Il aurait pu créer le monde en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Dieu est tout puissant. Mais il a pris son temps. Le Dieu créateur est un Dieu qui prend son temps. Et il apparaît ainsi dès la première page de la Bible, parce que c'est dans la nature de Dieu de prendre ce temps. Qu'est-ce que la révélation biblique, sinon l'histoire de la révélation de Dieu aux hommes, une histoire qui a pris des siècles et des millénaires. Dieu a pris le temps de se révéler petit à petit, aux patriarches, aux prophètes, parfaitement en Jésus-Christ, cette révélation qui aboutit en Christ, mais dans un cheminement qui a duré des siècles et des millénaires. Dieu prend le temps de se révéler. Et aujourd'hui encore, Dieu prend le temps de cheminer avec nous. C'est un Dieu qui prend son temps. Alors, Lyrique, des fois, on aimerait qu'il agisse un peu plus vite. Des fois, on aimerait qu'il réponde plus rapidement à nos prières. On a l'impression qu'il prend un peu trop son temps, parfois. Et on aimerait que Dieu agisse plus vite, qu'il réagisse. Et d'ailleurs, on a le reflet de cette attente dans certaines prières de la Bible, dans certains psaumes notamment. Jusqu'à quand, Seigneur ? Et parfois, nous, on est un peu impatients et on trouve que Dieu prend un peu trop son temps. Mais en même temps, est-ce qu'il n'est pas réconfortant pour nous d'avoir un Dieu qui prend le temps de cheminer avec nous ? Un Dieu qui accepte de faire avec nos lenteurs. Parce que si on reproche à Dieu de prendre un peu trop son temps, avouons que nous ne sommes pas toujours prompts à obéir et à faire ce que le Seigneur attend de nous. Et pourtant, le Seigneur prend son temps de cheminer avec nous, avec nos lenteurs, avec nos difficultés, et même avec nos erreurs. Il est là, à côté de nous, il prend le temps de marcher avec nous. C'est un Dieu dont la patience contraste souvent avec notre impatience. Un Dieu qui prend tellement son temps que parfois même il sait s'arrêter. Le récit de la création ne s'arrête pas après le 6e jour. Il y a le 7e jour. Dans nos Bibles, qui est au début du chapitre 2, mais vous savez, la numérotation des textes bibliques et les sujets à caution, en fait, le début du chapitre 2, c'est la fin du chapitre 1. Le jour où Dieu se repose. Non, pas vraiment parce qu'il était fatigué. Dieu n'est pas fatigué de ce qu'il a fait. Mais c'est une façon de dire qu'il va changer de mode d'action. Il a achevé son œuvre de création. Il a pu constater que c'était très bon. Et maintenant, il passe à autre chose. il passe à un autre mode d'action. Le Dieu créateur devient le Dieu superviseur. Il ne se retire pas de sa création, il est toujours là, mais simplement il n'est plus en tant que créateur, mais celui qui maintient. Et même ici, dans ce texte, qui prend soin de sa création et qui la regarde, qui l'admire. Alors, ce n'est pas de l'autosatisfaction en disant, regardez, je m'auto-congratule de ce que j'ai fait, quelque chose de magnifique, de beau. Mais Dieu regarde ce monde qu'il a créé avec satisfaction, parce qu'il a créé un monde autonome, fonctionnel. Et il a placé comme chef-d'œuvre de cette création l'homme et la femme qu'il a créé à son image, pour que l'homme et la femme puissent être en relation avec lui. Dieu a créé un monde dans lequel il y a des créatures, nous, qui pouvons être en relation avec le Créateur. Et Dieu peut regarder paisiblement et avec joie ce monde qu'il a créé. Si Dieu s'arrête après 6 jours de création, si le 7e jour est le jour du repos de Dieu où il s'arrête, c'est pour laisser aux hommes qu'il a établis comme intendants de la création leur liberté d'action. Dieu dit maintenant aux hommes, c'est à vous maintenant. La balle est dans votre camp. Je vous ai placé sur terre pour être mes représentants. Vous êtes créés en image de Dieu. Maintenant j'arrête, je regarde, je suis là, je surveille, je vous accompagne, je chemine avec vous, mais c'est à vous maintenant. C'est à vous de faire votre travail, ce pourquoi je vous ai placé sur terre. Si Dieu s'arrête, c'est pour laisser aux hommes leur liberté d'action. Et s'il prend le temps de cheminer avec nous, il ne fera pas à notre place ce que nous pouvons ou ce que nous devons faire. Il s'arrête pour nous laisser la voie libre. Ce qui fait qu'on ne peut pas accuser Dieu de tous les maux, parce qu'il nous laisse responsables, ici-bas sur cette terre, et nous ne pouvons pas non plus le blâmer de son inaction, parce que il nous laisse libres et responsables de nos actes. Un Dieu qui a tout créé, un Dieu qui a achevé une œuvre de création parfaitement harmonieuse, a choisi de déléguer au chef-d'œuvre de sa création que nous sommes la tâche d'être intendant de ce monde. Alors, simplement pour conclure, loin des polémiques parfois un peu futile, entre le combat entre la foi et la science sur les textes des origines, en réalité, ce récit majestueux nous révèle d'abord le Créateur, celui qui est à l'origine de toute chose. Le Dieu révélé à la première page de la Bible, qui est le même à s'être révélé plus tard aux patriarches, aux prophètes, qui est le même qui est venu parmi nous en Jésus-Christ, qui est le même qui vient habiter notre cœur par son esprit. Ce Dieu-là est un Dieu qui cherche à instaurer l'harmonie au lieu du chaos. Et cela, il le fait aujourd'hui dans nos vies, dans son œuvre de salut. C'est un Dieu qui prend son temps pour cheminer avec nous, à notre rythme, marcher à nos côtés. Et un Dieu qui sait s'arrêter pour nous laisser pleinement libres et responsable, parce que c'est ainsi qu'il nous a créés. N'est-ce pas cela encore la façon d'agir du Dieu créateur en nous, avec nous aujourd'hui encore? N'est-ce pas là encore et toujours l'expression de son amour envers nous? Amen.